Il est 8h23.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de la Culture avec lequel vous allez pouvoir dialoguer dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Franck Riester.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et merci d'être à notre micro ce matin. On va aborder avec vous dans un instant la réforme de l'audiovisuel public avec les annonces hier notamment du Premier ministre. Mais d'abord cette tribune dans Le Monde que vous signez avec vos collègues ministres Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer, Christophe Castaner, avec les secrétaires d'État Marlène Schiappa, Cédrico, Gabriel Attal et la députée Laetitia Avia. Tribune sur la haine en ligne vers la fin de l'impunité. Certains craignent, allons au cœur du problème tout de suite, que cette future loi Avia sur la haine en ligne, pleine de bonnes intentions évidemment, finisse par réduire le champ de la liberté d'expression. Comment les rassurer ?
Oui, il faut être vigilant, mais il y a une détermination totale du gouvernement, à la demande du président de la République et du Premier ministre, de apporter une réponse à ce défi de notre société. C'est comment lutter contre ces propos injurieux, ces incitations à la haine qui sont aujourd'hui monnaie courante sur les réseaux sociaux. Pour ça, une réponse triple. D'abord, absolument sanctionner ceux qui sont responsables de ces propos-là. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Deuxièmement, c'est responsabiliser aussi les plateformes pour qu'elles retirent très rapidement ces propos, pour pas que ces propos se diffusent largement. Et troisièmement, c'est l'éducation. C'est notamment nos plus jeunes. Faire en sorte, à travers l'éducation à l'image, à travers l'audiovisuel public, à travers la lutte contre la désinformation, la sensibilisation, la compréhension de ce que veut dire pour des gens ces propos et ces injures, que nous devons changer nos pratiques. Et c'est ce triple engagement qui est bien clair dans notre tribune. Et bien évidemment, il faut être vigilant, Nicolas Demorand, sur la protection de notre liberté d'expression. C'est un bien précieux. Nous vivons en démocratie. Il faut qu'on en soyons garants de cette liberté d'expression. Mais liberté d'expression ne veut pas dire que nous ne devons pas aussi faire attention aux dérives de cette liberté d'expression qui peut conduire à des drames.
Il y a une question sur le délai pour retirer un contenu haineux ou qui pourrait être considéré comme tel en justice. Ce délai est de 24 heures. N'est-ce pas trop court? Les plateformes ne risquent-elles pas de faire du zèle, de sursupprimer des contenus qui ne ressortent pas de la loi, simplement pour se protéger? Est-ce que c'est pas un risque? Beaucoup le disent.
Si, c'est un risque. Sur la partie responsabilisation des plateformes, nous avons pris la décision, après un travail remarquable de la députée Laetitia Avia, d'accompagner sa proposition de loi qu'elle a proposée au Parlement, qui vise à justement demander aux plateformes de retirer dans un délai de 24 heures les propos injurieux. Et aussi de faire preuve de transparence sur la façon dont ils modèrent les propos et les outils qu'ils mettent à leur disposition pour gérer ce retrait des propos haineux ou injurieux.
24 heures, c'est pas trop court.
Et on demande au CSA d'être, en tant que régulateur, le garant de ce retrait de 24 heures. Et donc, nous demandons aussi au CSA de s'assurer qu'il n'y ait pas des retraits abusifs. Et ça, c'est le fruit d'ailleurs des débats parlementaires. Je trouve que c'est très juste. Il faudra que le CSA, ça sera toute la difficulté. C'est pas simple. On sait bien que c'est une matière qui est difficile. Mais ça sera au CSA de juger si tous les outils, toutes les méthodes sont mises en œuvre par les plateformes. Si effectivement, ils retirent bien dans 24 heures les propos qui ont été signalés par les internautes. Et enfin, s'il n'y a pas d'abus, parce que s'il y avait des abus, ça mettrait effectivement en péril cette liberté d'expression à laquelle nous sommes si attachés.
Emmanuel Macron avait évoqué l'idée d'interdire l'anonymat en ligne. Où en est-on? Est-ce abandonné? Si oui, pourquoi?
Écoutez, il avait évoqué cette question-là et je pense qu'il n'y a aucun débat qui doit être tabou. Moi, à titre personnel, je suis opposé à supprimer l'anonymat. Mais supprimer l'anonymat maintenir l'anonymat ne signifie pas ne pas demander à celles et ceux qui tiennent ces propos-là d'être poursuivis devant les tribunaux si ce sont des propos haineux ou injurieux. Pourquoi? Parce qu'on peut les retrouver à travers notamment les adresses IP.
Franck Riester, avant d'aborder la question de l'audiovisuel public, encore une question. Êtes-vous favorable à la réforme qui semble se profiler de la loi de 1881 sur la liberté de la presse? Nombre d'avocats disent que cette réforme n'a pas d'objet, qu'elle serait même dangereuse, qu'il suffirait d'ajouter un alinéa pour que le parquet puisse agir en comparution immédiate, qu'il ne faut pas toucher à la loi. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense qu'il n'y a pas de débat tabou, et j'en pense que la loi de 1881, c'est un des piliers, justement, de la protection de la liberté d'expression, pilier donc de notre démocratie, pilier de la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'expression, plus largement, puisque on sait bien que ce n'est pas simplement l'émetteur qui est regardé, mais c'est le moyen de communiquer. Et les publications, qu'elles soient émises par public, qu'elles soient émises par un individu ou par un éditeur de presse, tombe sous la loi de 1881. Et c'est une loi qui est protectrice de la liberté d'expression et qui n'empêche absolument pas qu'il y ait des sanctions pour ceux qui tiennent des propos injurieux, qui diffament. Et donc, nous avons, avec Nicole Belloubet, sollicité un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour avoir son avis. Mais c'est un bien précieux. Mais comme tout bien précieux, il peut aussi évoluer. Mais attention, il faut qu'on le fasse évoluer, éventuellement, mais d'une main tremblante.
Venons-en donc, Franck Riester, à la grande réforme de l'audiovisuel public qui doit regrouper en holding France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Monde. Elle devait être présentée initialement en juillet en Conseil des ministres. Finalement, ce sera octobre prochain, a dit hier le Premier ministre. Est-ce que, pour commencer, le modèle d'une BBC à la française que vous aviez défendu avant d'être ministre, est-ce que ce modèle-là est exclu ?
Non, les arbitrages ne sont pas finis, mais l'idée d'une fusion totale des entreprises d'audiovisuel public n'est pas retenue, ça c'est certain. Donc il y a deux solutions en termes d'organisation, soit des coopérations encore plus importantes qu'il n'existe aujourd'hui, entre entreprises indépendantes, soit une holding avec des fonctions exécutives pour mieux coordonner les différentes stratégies de chaîne, éventuellement créer des joint ventures sur telle ou telle mission pour permettre de relever les défi de l'audiovisuel public. Nous voulons que l'audiovisuel public français soit une référence en Europe. On n'a jamais eu autant besoin d'audiovisuel public qu'aujourd'hui. En matière d'information, en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de lutte contre la désinformation, en matière de rayonnement de notre pays, c'est fondamental. Nous devons avoir une grande ambition pour l'audiovisuel public, mais il faut relever ces défis-là. Et comment on relève ce défi fort ? Eh ben, d'abord en misant sur les femmes et les hommes de l'audiovisuel public, en investissant dans les innovations, dans les nouvelles technologies pour être plus présents sur Internet, parce qu'on sait bien aujourd'hui que les usages de nos concitoyens évoluent dans leur accès au contenu audiovisuel. Nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de transversalité dans les missions de service public entre la télé, la radio, l'Internet, en France, à l'étranger. Et tous ces défis-là, on a la volonté de permettre à l'audiovisuel public de les relever avec la loi dont vous avez parlé, qui va permettre de réaffirmer les missions de service public et de proposer une gouvernance renouvelée. Et puis aussi en étant derrière et
qui
avec
va gérer
les
holdings. Alors, si c'est une holding qui est...
Si c'est une holding, ça sera évidemment géré d'une façon indépendante par un conseil d'administration. Nous souhaitons modifier le mode de nomination du président ou des présidentes ou des présidents de l'audiovisuel public dans le périmètre actuel ou dans la création d'une holding. On ne souhaite plus que ce soit le régulateur, puisque le régulateur est justement l'arbitre. Il peut pas être juge et parti. Or, aujourd'hui, il est juge et parti. Et donc, ça ne sera plus le CSA qui nommera les présidents ou présidentes des entreprises audiovisuelles publiques. Et ça sera le conseil d'administration, soit de la société holding, soit des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, qui, à travers leur conseil d'administration, qui pourra être renouvelé dans sa composition.
Vous dites que vous avez une grande ambition pour l'audiovisuel public. Grande ambition, ça veut dire grand moyen également. Est-ce qu'à l'issue de cette réforme, il y aura sur le service public plus de pubs, moins de pubs, autant de pubs.
Le modèle économique de l'audiovisuel public est fragile, évidemment, et donc nous devons veiller à ne pas prendre des décisions qui mettraient en péril cet équilibre et ces modèles économiques. Pour autant, ma conviction, c'est que il faut faire en sorte de bien différencier le service public du secteur privé, et ça passe notamment par la présence de pubs sur les antennes. J'ajoute que nous avons demandé à l'audiovisuel public de faire un effort, comme à nombreux autres secteurs, dans le cadre du redressement des comptes publics. C'est le cas pour l'audiovisuel public, c'est le cas pour Radio France. Mais que les choses soient claires, on est en transparence par rapport à cet effort. L'effort, il est prévu jusqu'à 2022 pour toutes les entreprises d'audiovisuel public. Et nous, en parallèle à cet effort, nous voulons vraiment inscrire l'audiovisuel public justement dans l'avenir, à travers les réformes que nous allons conduire avec les
avec les
équipes de France Télévisions, avec les équipes de l'INA, avec les équipes de Radio France, de France Média Monde, d'Arte ou de TV5 Monde.
Le retour de la pub après 20h à la télé, c'est exclu ?
Oui, c'est exclu, oui.
Alors, s'il n'y a pas plus de pubs, Franck Riester, si des économies sont demandées aux entreprises de services publics, si la redevance n'est ni augmentée ni étendue aux nouveaux écrans, comment on fait pour avoir un service public audiovisuel fort? Vous en avez décrit l'enjeu politique et culturel à l'instant, un service public très fort en Europe. Comment on évite la paupérisation du service public alors qu'il est un élément de la souveraineté culturelle de la France, pour vous citer? Oui, comment on l'évite?
Eh ben, on l'évite en se transformant et on l'évite en pérennisant et en modernisant la fiscalité qui est la fiscalité qui permet le financement de l'audiovisuel public.
Allez-y, sur le nerf de la guerre pour commencer.
Alors, sur le nerf de la guerre, vous savez que la redevance est adossée à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation disparaîtra à l'échéance de 2022. Il y a très clairement eu un arbitrage du président de la République pour faire en sorte qu'il y ait le maintien d'un financement spécifique pour l'audiovisuel public. Ça ne sera pas budgétaire et qui permette l'indépendance de l'audiovisuel public. Mmh. Ça, c'est un premier point.
Donc,
c'est
pas de suppression de la redevance.
Par redevance, ouais. Ça a été tranché.
C'est la même redevance, elle augmente?
Non, alors
elle
justement,
est étendue.
Ça sera différent pour deux raisons. D'abord parce que la taxe d'habitation sur laquelle est adossée la redevance va disparaître, donc il faudra bien adosser la redevance sur un autre impôt pour limiter les coûts de collecte. Et deuxièmement, il faudra modifier son mode de calcul pour tenir compte de l'évolution de ce qu'est la façon dont les Français consomment ou ont accès à l'audiovisuel.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, en sonnant et trébuchant?
Ça veut dire que nous aurons un financement dédié, spécifique, qui permettra de garantir l'indépendance de l'audiovisuel public, et il y aura des décisions prises le moment venu, c'est-à-dire pour les échéances des 5 ans qui suivent l'échéance que nous avons fixée jusqu'à 2022, pour prévoir les ressources de l'audiovisuel public. On demande à tous de faire des efforts en matière de rétablissement de nos comptes publics. Mais ces efforts ont des limites, et ces limites, c'est l'ambition que nous avons pour l'audiovisuel public. Bien sûr qu'il faut des moyens quand on a de l'ambition. Et aujourd'hui, on estime que les moyens de l'audiovisuel sont très importants, l'audiovisuel public sont très importants, et qu'ils pourraient être beaucoup plus encore efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui en termes de puissance, en termes de présence pour nos compatriotes, si on était encore mieux organisé. Il y a des choses formidables qui sont faites, vous avez des résultats exceptionnels.
C'est ce que j'allais vous dire.
Oui, mais c'est quand ça va bien qu'il faut se transformer. C'est quand ça va bien qu'il faut prévoir l'avenir. Mais oui, parce que les entreprises, quand elles sont dans une situation difficile, c'est trop tard. Vous avez des résultats exceptionnels, et ben ensemble construisons
Monsieur
l'audiovisuel public de demain pour relever les défis de la numérisation, de la digitalisation, de la modification des usages. Et sachez que le ministre que je suis et le gouvernement ont la volonté très forte, le Premier ministre l'a dit hier aux 30 ans du CSA, d'accompagner l'audiovisuel public pour qu'il devienne la référence
Monsieur
en Europe.
Monsieur le ministre, mardi, il y a eu une grève très suivie ici même à Radio France. Il y a beaucoup de gens dans cette maison qui sont d'accord avec vous sur le constat, qui disent qu'il faut se transformer, qu'il faut s'adapter à son temps, notamment à l'heure du numérique. Mais tout de même, jamais, et vous le dites, jamais les radios de Radio France n'ont été aussi fortes. Jamais elles n'ont eu autant d'auditeurs, et parfois plus que leurs concurrentes des chaînes privées. Que répond l'actionnaire à ce moment-là? Faites des économies et supprimez des postes. Vous comprenez que ce soit incompréhensible pour certaines personnes?
Oui, je comprends que ça soit un moment difficile. Mais c'est pour ça que je suis venu ce matin pour échanger avec vous, pour vous dire ma conviction. C'est que quand ça va bien qu'il faut s'adapter. C'est quand ça va bien qu'il faut investir dans l'Internet, comme le propose Sybille Veil et son équipe, dans les moyens importants en matière de nouvelles technologies. C'est maintenant qu'il faut investir dans la formation des femmes et des hommes pour préparer justement les métiers de demain.
Vous savez bien qu'on va créer. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est aussi ça le sujet. Oui. Entre 270 et 390 postes à supprimer selon les premiers éléments qui circulent. Donc, est-ce que vous pensez, si oui, il faut le dire clairement, qu'on peut faire aussi bien que les résultats que citait Léa à l'instant, avec moins de budget, moins de monde? Peut-on,
Oui, je pense que oui, que c'est un effort que je ne sous-estime pas. Mais je pense que c'est un effort qui est tout à fait acceptable, en tout cas possible pour l'audiovisuel public et pour Radio France en particulier. Ça sera un plan de départ volontaire. Moi, je fais toute confiance à Sybille Veil et à son équipe pour, avec les organisations syndicales, avec les salariés et les équipes de Radio France, de pouvoir définir comment, à quel rythme les choses se mettent en place. Dans son plan, il y a aussi le recrutement de personnel pour...
C'est vrai que vous mettrez 20 millions d'euros pour accompagner les départs, vous, l'État.
Nous accompagnerons les travaux, notamment de Radio France. Je me suis engagé à le faire dans le cadre du budget 2019 et je le ferai aussi dans le budget 2020. C'est que la fin des travaux de la maison de la radio n'impacte pas le budget de Radio France tel qu'il est prévu jusqu'à l'horizon 2022. Pour que cet exceptionnel investissement n'impacte pas le fonctionnement de Radio France.
Donc pas pour accompagner le plan social.
Pas pour accompagner le plan social.
Denis est en ligne. Bonjour et bienvenue, Denis.
Oui, bonjour. J'avais deux questions au ministre de la Culture. Comme on est en pleine réforme de l'assurance chômage, j'aurais voulu savoir s'il avait des précisions à donner, des éclaircissements concernant le statut des intermittents qui est à chaque fois revu à la baisse.
Merci Denis pour cette première question. Franck Riester vous répond.
Oui, il y a eu une... vous avez entendu évidemment l'annonce du Premier ministre et de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, de réformer l'assurance chômage après avoir constaté que les organisations patronales et syndicales n'ont pas pu se mettre d'accord par rapport au cap que voulait fixer le gouvernement. Et donc le gouvernement a pris ses responsabilités. Il a pris sa responsabilité de proposer une réforme en profondeur de l'assurance chômage pour davantage de droits pour les chômeurs, notamment en matière d'accompagnement, et pour faire un système plus juste.
Mais pas les intermittents.
Mais il a pris la décision, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, moi-même, de ne pas toucher aux annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des problématiques spécifiques au métier du spectacle. Et deuxièmement, il y a un point qui est très important, qui est qu'il y a déjà eu un accord en 2016 qui est un accord ambitieux et dont toutes les conséquences n'ont pas été mesurées. Vous savez qu'il y a un fonds spécifique, le fonds PEPS, qui est prévu pour faire en sorte que nous accompagnions la lutte contre la permittence, c'est-à-dire la pérennisation des emplois et le rallongement de la durée des contrats. Étant donné que nous sommes en plein travail avec les organisations syndicales, les entreprises, dans cette optique-là, il est beaucoup trop tôt pour à nouveau rebattre les cartes au niveau de l'annexe 8 et l'annexe 10.
Le journal L'Opinion cite un conseiller ministériel qui a une explication plus prosaïque. Nous avons passé l'hiver avec les gilets jaunes sur les ronds-points. On ne va pas passer l'été avec les festivals perturbés par les artistes en colère.
Écoutez, on peut faire parler quiconque. On peut dire que le gouvernement aurait des arrière-pensées d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je vous dis, c'est que les annexes 8 et les annexes 10... Enfin, l'annexe 10 ne seront pas touchés. Nous sommes convaincus que les intermittents du spectacle sont une force et le dispositif d'assurance chômage pour les intermittents du spectacle sont une force pour notre pays parce que ça nous permet d'avoir une richesse de la création culturelle et notamment dans le spectacle vivant. Ne touchons pas à ces acquis-là. Pour autant, allons jusqu'au bout de la réforme qui a été voulue en 2016, fruit d'une grande négociation.
On repart au standard, direction Marseille. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Et j'ai une question assez simple. Est-ce que le gouvernement ne va pas détruire Radio France comme les gouvernements anglais successifs ont fini par mettre à bas la BBC?
Merci Stéphane pour cette question. Franck Riester vous répond.
Non, nous n'avons évidemment pas la volonté. Au contraire, nous avons une grande ambition pour l'audiovisuel public. La BBC d'ailleurs est aussi en réforme importante, c'est vrai. Par exemple, pour la période similaire, c'est 20% de ressources en moins pour la BBC. Je dois reconnaître que la ressource et notamment la redevance était à un niveau plus élevé en Grande-Bretagne, donc il faut savoir aussi reconnaître ce qu'il en est. Je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait depuis le début de cette matinale. Nous voulons un audiovisuel public fort, ça nécessite des moyens, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne doit pas s'inscrire dans une démarche de meilleure gestion de l'argent public dans notre pays.
Hier, le Premier ministre a parlé d'Adopi, Adopi qui lutte contre le piratage en ligne, qui serait rapproché du CSA. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin ? Est-ce que Adopi, la CNIL, l'autorité de protection des données personnelles, seront absorbés par le CSA? Alors, est-ce qu'il y aura une nouvelle entité? Comment ça va se passer, ça?
Pas la CNIL, puisqu'elle a vraiment des fonctions et des missions très spécifiques pour garantir la vie privée et les libertés. En revanche, étant donné que nous voulons faire évoluer aussi le rôle du CSA dans son rôle de régulation, non seulement des contenus audiovisuels, mais des contenus aussi sur les plateformes, il y a une vraie logique, un rapprochement avec la Hadopi. Alors, de quelle manière? Ça, c'est ce qui doit être encore réfléchi avant les arbitrages qui auront lieu au tout début de fin de l'été, début de l'automne.
L'ARCEP serait dedans?
Alors, l'ARCEP, le Premier ministre a dit aussi qu'il fallait regarder à des meilleurs, à des rapprochements, à des meilleurs, une meilleure coordination de l'action. Là aussi, nous sommes en train de réfléchir à tout ça. Mais l'objectif est simple, c'est de se doter de davantage de moyens et d'une meilleure transversalité de la régulation pour demain. On voit bien qu'il y a une convergence des contenus entre l'Internet, la télévision, la radio, et que tout ça est de plus en plus interpénétré. Nous devons faire en sorte que la régulation soit la plus adaptée à cette évolution des choses.
Une question sur l'Opéra de Paris. Où en est la nomination du futur directeur?
Le fantôme de l'Opéra.
Voilà. Nous assurez-vous que l'Opéra de Paris aura une programmation en septembre 2021 et pourquoi ça prend aussi longtemps?
Bien sûr, il n'y a pas de fantôme de l'Opéra puisqu'il y a un directeur qui est Stéphane Lissner, et il y aura une décision prise très rapidement.
Ça fait 9 mois qu'on attend.
Avant l'été. Mais vous savez, c'est pas une petite affaire que de nommer le patron d'une telle institution dont
on
est si fier.
Mais c'est quoi le problème? C'est quoi?
Mais c'est
qu'il faut
choisir. Non, mais c'est que c'est un profil qui est difficile à obtenir, enfin à avoir. Ça nécessite des qualités assez exceptionnelles, des qualités artistiques, des qualités de gestion, des qualités d'animation.
Est-ce que vous avez proposé un poste à quelqu'un qui l'a refusé?
Non, il n'y a pas eu de ça. Le président de la République, avec fort de ce que j'ai pu lui donner comme information, fort de ce qu'a été le travail d'un comité d'audition qui a préparé ce recrutement, prendra sa décision dans les jours qui viennent.
Le président de la République, justement, a dit à Ornan la chose suivante. J'ai parlé un peu d'art durant le grand débat, mais pas assez. Ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, à part le pass culture qui est en expérimentation, quelle est sa grande œuvre, sa grande politique culturelle?
Il y a deux choses. Je pense l'éducation artistique et culturelle. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important
pour
lui.
C'est vieux, ça. Hein.
Oui, mais tu sais, les sujets sont souvent les mêmes. Enfin, lui, en tout cas, je peux vous assurer qu'il a une volonté très forte de faire en sorte que 100% de nos enfants puissent avoir accès à des œuvres, à des artistes, à eux-mêmes l'expression culturelle. Et donc, il a demandé au ministre de l'Éducation nationale et à moi-même d'être très présent sur ces questions de l'éducation artistique et culturelle. Et nous allons de l'avant. Et deuxièmement, je pense que c'est la conception qui est la sienne de dire qu'il faut absolument remettre les artistes au cœur de la société. J'ai lancé une mission qui va être présidée par Bruno Racine, l'ancien patron de la Bibliothèque nationale de France, et qui va faire une mission prospective pour voir de quelle manière on peut s'assurer que les artistes, partout sur le territoire, sont bien présents dans nos vies. Nous avons la chance d'être dans un pays qui aime l'art, qui aime la culture. Eh ben, la culture et l'art, ça vient pas comme ça. Ça vient parce qu'il y a des artistes qui créent, des créateurs, des artistes partout sur le territoire. C'est la raison pour laquelle il a lancé à Ornan le projet France Terre d'Artistes. Et en juillet, je vais présenter le grand projet que nous avons en matière de résidence d'artistes pour que sur notre sol, mais aussi à l'étranger, nous puissions nous assurer de lieux pour que les artistes puissent créer, puissent s'épanouir, puissent nous permettre de rêver et de nous permettre de pouvoir avoir accès à ces œuvres. C'est le programme France Terre d'Artistes. Donc on voit bien que à la fois à travers l'éducation artistique et culturelle, avec la démocratisation culturelle, l'accès à la culture via le pass culture et la présence des artistes partout dans la société, le président de la République a une grande ambition pour la culture pour la France.
Puisque vous parlez des artistes, on a appris il y a quelques minutes la mort de l'un des deux membres du duo Cassius, Philippe Serbonici, d'Isdar, mort accidentellement hier d'une chute d'un immeuble apparemment. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? En cette veille de la fête de la musique.
Oui, c'est ça. Nous sommes tristes ce matin. Nous sommes tristes et nous penserons à lui demain pour la fête de la musique. Il devait se produire pendant cette fête de la musique. Et je crois que tous les musiciens, tous les Français auront une pensée pour cet artiste d'exception qui a été un des grands artisans de la French Touch, qui a lancé l'électro. Et nous avons la chance d'avoir une scène française exceptionnelle aujourd'hui parce qu'il y a eu des artistes comme lui.
Et il aurait dû être effectivement sur la scène de l'Olympia demain soir pour la grande soirée qu'organise France Inter à l'occasion de la fête de la musique. Voilà, merci Franck Riester d'avoir été au micro d'Inter ce matin.